Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Minute Papillon.
Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud. Bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actualité de 20 minutes. Aujourd'hui, on parle de l'expérience d'être aidant d'un proche malade, en l'occurrence la maladie d'Alzheimer, parce que c'est la journée mondiale de lutte contre cette affection qui aujourd'hui n'a pas de traitement curatif. Selon l'association France Alzheimer, en France, un cas est diagnostiqué toutes les 3 minutes. Qu'est-ce qu'être aidant au quotidien? Pourquoi il ne faut pas rester seul? Pourquoi il faut se faire aider? Olivia Amblard a été aidante pour son père malade d'Alzheimer jusqu'à son décès. Elle est devenue par la suite bénévole à l'association France Alzheimer et elle nous raconte aujourd'hui la première question à Olivia. Qui êtes-vous, Olivia? Comment vous présentez?
Olivia, j'ai 44 ans. Je suis maman de 3 enfants. Je travaille à 100% et en fait, j'ai été confrontée à la maladie d'Alzheimer avec mon papa il y a une dizaine d'années, où en fait, donc, il a été diagnostiqué vraiment Alzheimer. Donc à ce moment-là, donc, j'avais que 34 ans, voilà, en pleine activité, et puis je n'avais d'ailleurs que 2 enfants, et je n'envisageais pas d'en avoir un troisième parce que justement, je m'occupais de mes parents. Depuis, mon papa est décédé il y a maintenant 4 ans, et j'ai ma maman qui est aussi actuellement en EHPAD, alors qu'il n'a pas la maladie d'Alzheimer, mais quelques similitudes.
Et avec votre papa, en fait, vous avez suivi l'évolution de la maladie et vous êtes devenue ce qu'on appelle une aidante.
Oui, oh oui, j'ai suivi l'évolution de la maladie. J'ai bien vu toutes ces phases et ça a été assez fulgurant et assez déstabilisant parce que tout a été très, très vite. Donc, dès lors qu'il a été diagnostiqué, on est vite passé des petits oublis de mémoire à des choses un petit peu plus complexes, des changements un petit peu dans la personnalité, parce que des visions parfois nocturnes, donc parfois de l'agressivité, parfois des craintes, enfin différentes choses, jusqu'à la fin où voilà, après il a perdu le langage, ses aptitudes à faire les choses, et donc sur la fin il était en EHPAD.
Et vous, jusqu'à le moment où il est parti en EHPAD, ça a duré combien de temps? Et
en fait, il est resté à domicile. Il est resté à domicile. Je ne sais plus trop combien de temps, mais ça devenait très très compliqué parce qu'en fait, je pouvais jamais m'éloigner. Donc partir en vacances, c'était hyper compliqué à organiser parce que je pouvais pas le laisser tout seul avec ma mère qui, elle aussi, avait une santé fragile et puis en plus qui était totalement dans le déni de la maladie. Donc c'était compliqué pour elle de gérer ça toute seule. Et donc, tout devenait une organisation. Il fallait trouver des accueils de jour ou pour les vacances, pouvoir le laisser. Donc, voilà, jusqu'au jour où, en fait, en accueil de jour, ça ne s'est pas très, très bien passé. Il a eu une phase agressive et il a été hospitalisé. Et du coup, il a été hospitalisé pendant 1 an. Et après, on m'a clairement dit qu'il ne pourrait pas rentrer à domicile parce qu'après, c'est un danger pour lui et puis pour ma maman. Donc, en fait, il a fallu trouver un EHPAD et puis voilà, après, il est rentré en établissement et ça s'est très, très bien passé.
Et le quotidien d'un aidant, c'est quoi?
Étant sa fille, je n'étais pas au quotidien à domicile. Mais oui, ça veut dire avoir des appels jour et nuit, en l'occurrence de ma maman, pour me dire qu'il avait laissé couler l'eau jusqu'à ce que ça déborde et qu'il fallait venir éponger la maison, qu'il avait vu, il croyait voir des voleurs et que du coup, il avait un couteau à la main et qu'elle ne savait pas quoi faire, qu'elle l'avait perdu dans un centre commercial et qu'il fallait aller le récupérer au poste de sécurité. Le commissariat qui vous appelle parce qu'ils ont retrouvé votre parent, qu'il faut venir le chercher. C'est un tracas régulier parce que voilà, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et puis, on a aussi sa propre vie. Et donc, il faut aussi faut se couper en deux, essayer d'être là, mais de se préserver aussi.
Et comment on arrive à se préserver ? On arrive à se préserver, on y arrive seul ou il faut une aide extérieure ?
On arrive à se préserver. Après, ça dépend aussi peut-être de la nature des gens. Et puis, ça dépend aussi de son entourage probablement familial. Il se trouve que je suis très bien accompagnée de mon mari et de mes filles. Donc, ça aide aussi grandement. Mais après, c'est vrai qu'il y a un moment, il y a des choses où il faut essayer de se décharger, de ne pas culpabiliser. Par exemple, il y a quand même tout un tas d'aides à domicile qui peuvent venir pour la toilette, pour décharger les dents quelques heures. Et c'est très important parce que je me suis déjà vue faire la toilette de mon père, voire le changer parce qu'il avait des protections. C'est quand même pas tout à fait... c'est assez particulier et pour l'aider et pour les dents de se retrouver dans ce genre de situation. Donc, il faut admettre que voilà, il y a des aides aussi qui sont là pour ça, dont c'est le métier, et essayer de les utiliser. Mais pour ça, il faut admettre les choses.
Ne pas rester seul et admettre qu'on a besoin d'aide. Même si c'est Exactement. Dur, c'est dur de...
C'est dur, alors il faut admettre la maladie. Dans le sens où il ne faut pas essayer de retenir la personne comme elle était. Donc ça, c'est déjà, je crois que c'est déjà primordial de pas se battre non-stop contre la maladie, mais plutôt d'évoluer avec elle pour éviter de s'épuiser moralement, nerveusement. Une fois qu'on a accepté ça, c'est quand même plus facile. Il y a moins de conflits avec l'autre. Et puis voilà. Et puis après, se dire qu'on peut se faire aider et que c'est très, très bien.
J'ai l'impression, vous me direz peut-être que si c'est vrai ou si c'est faux, mais que dans beaucoup de familles, les familles s'enferment et ne font pas forcément toujours appel à l'extérieur avant d'attendre un moment critique.
C'est complètement vrai parce que en fait... il y a plusieurs aspects. D'abord, on a un petit peu la tête dans le guidon, on n'a pas trop le choix, donc on est tout le temps dans l'action. Et puis, il y a peut-être aussi une espèce de petite part un peu de tabou. Disons que voilà, il y a des situations un petit peu difficiles à vivre avec son proche et on a du mal, c'est pas forcément conforme avec la société, donc c'est un petit peu compliqué. Et puis après... comment dire ? Donc, il y a aussi le fait que quand on devient aidant, on a l'impression qu'il n'y a que nous qui pouvons faire les choses. Enfin, on a du mal à déléguer parce qu'il y a aussi une espèce de part de culpabilité en disant « si je laisse faire ça à quelqu'un d'autre, je m'en décharge, ce sera moins bien fait ». Enfin, donc, il y a vraiment différents aspects. Et puis après, on s'isole un petit peu et on se fatigue.
Vous qui avez été aidante de votre papa malade, votre papa est aujourd'hui décédé, vous avez intégré l'association France Alzheimer en tant que bénévole et aujourd'hui, vous dispensez des formations pour les aidants et pour des personnes qui vivent la même situation que vous avez vécue il y a quelques années.
Oui, c'est vrai que en fait, c'est quelque chose qui marque au fer rouge, on va dire. Enfin, j'ai vraiment... ressenti beaucoup de choses en traversant toute cette période en tant qu'aidante. Et une fois que j'ai réussi aussi à faire mon deuil, etc., je voulais pas que tout ça ce soit inutile. Et donc, j'ai souhaité être bénévole chez France Alzheimer, Essonne en l'occurrence. Et ce qui m'intéressait justement, c'était l'aspect de de donner des formations aux aidants sur différents modules. On explique la maladie, son évolution. On peut donner des astuces pour parer certaines choses. Et puis, ça permet aux gens aussi de discuter entre eux et de se dire « Ah bah ouais, moi aussi, ça m'arrive ce genre de choses et finalement, je ne suis pas seule. » Parce qu'on a très, très souvent ce sentiment d'être seule à affronter les choses et d'être démunie, d'être à fleur de peau. Alors que voilà. Et puis, ça permet aussi de comprendre et donc, du coup, de maintenir la relation avec l'aidé et de continuer de communiquer avec lui. Parce que très souvent, dans cette maladie, c'est pareil. On se dit, oh bah, ça ne sert plus à rien. De toute façon, il ou elle ne comprend plus les choses, ne ressent plus les choses. Alors que loin de là, voilà, si les mots s'en vont, si tout un tas de choses disparaît, une chose est sûre, c'est que les émotions, l'amour, tout ça, ça reste et c'est intact. Même si on est frère, cousin, tante, aux yeux du proche, peu importe.
Parce que aussi dur que soit la maladie, aussi terrible que soit la maladie d'Alzheimer, il y a aussi dans ces moments, des moments de joie, beaucoup de moments d'amour, dites même quand les souvenirs s'en vont.
Complètement, complètement. Et justement, d'accepter la maladie, ça aide à préserver tout ça et donc à rester proche de son parent. Et oui, il y a des choses qui sont très, très surprenantes parce qu'on peut rester des mois sans un mot, sans forcément une émotion. Et pourtant, un jour, il y a un petit déclic et on se dit, mais c'est dingue. Finalement, il ou elle ressent la même chose ou il se passe quelque chose de très fort. Moi, je l'ai ressenti à plusieurs reprises. Mon père pouvait avoir des moments très agités. Et quand j'étais enceinte, par exemple, il a directement posé ses mains sur mon ventre avec un regard... exceptionnel. Donc, c'est ce genre de petites choses qui, en fait, vaut tous les moments du monde.
Merci à Olivia Amblard, bénévole à l'association France Alzheimer. Minute Papillon, c'est le podcast d'actualité de 20 minutes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et aussi sur 20minutes.fr. Vous pouvez vous abonner gratuitement et aussi nous évaluer avec des petites étoiles sur Apple Podcast. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.